C'est quoi ça pour toi?
Ça fait penser à la rillette, mais... Ouais.
C'en est.
Ah ben voilà.
Jarret de cochon, monsieur, s'il vous plaît.
Rillette de jarret de confit de foie gras.
T'es rillette ou t'es végétal?
Ah, je suis rillette, moi.
T'es rillette?
Bah, c'est malade ou quoi? Je suis pas là à bouffer des trucs au tofu de mes couilles, là. Donne-moi un truc bien gras qui me bouche les artères et m'emmerdez pas.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis, et bien allez-y, installez-vous. Aujourd'hui, l'acteur et humoriste Arnaud Ducret se met à table avec nous jusqu'à midi et demi. Alors il vient nous voir avec son dernier film, Tendre et saignant, une comédie romantique et bouchère, et surtout très réussie. Caroline Pigozzi, journaliste et écrivain, viendra nous raconter Les Grandes Ce Monde, qu'elle a suivi pendant plus de 30 ans pour
J'espère
Paris
que je
Match.
Suis dedans, je te préviens.
Je pense. Et Emmanuel Rubin, notre gastronome du dimanche, va aiguiser sa lame pour nous parler couteau. Et au fourneau, David Radgeber, le chef du restaurant L'Assiette à Paris.
Bravo.
Et de l'arrière-cuisine à Paris. Voilà, vous connaissez tout le monde. Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour, ça va?
Merci d'être là.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour.
On mettra les noms à chaque fois ou après on dit juste les prénoms?
On dira les prénoms parce qu'on est ensemble une heure et demie.
Ah,
comment
ouais.
Ça va déjà?
Bah, ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous, ça sent très bon, je suis rentré dans ce magnifique laboratoire de cuisine un peu. Ça.
C'est ça, c'est vrai qu'on n'est pas en studio. Vous faites
voilà, on n'est pas
dire.
En studio, je le dis, voilà, ouais. Les gens ne le voient pas mais je vous décris, on est face à une rue, qui est la rue, je dis là le nom de la rue ou pas?
Oui, on peut le dire. Hein.
La rue,
Falguière,
je ne vois plus rien, moi j'ai 43 ans, Falguière, et on est dans le labo de ce chef extraordinaire qui va nous faire à manger.
C'est Stéphane Mollet, absolument.
Voilà. Et il y a un bus qui passe devant nous, voilà.
Pour entendre des bruits de rue, comment ça va? Vous êtes bien occupé là entre la promotion de ce film qui sort mercredi prochain et puis votre spectacle en tournée aussi.
Alors je repars en tournée, effectivement, et la promo du film. Je reviens de Belgique également pour la promo du film. Oui, on est bien occupé. Bah, ça fait du bien d'être bien occupé, j'ai envie de vous dire. Donc on est là et on travaille.
Dimanche, 11h passées, qu'est-ce que vous faites d'habitude à cette heure-ci?
Dimanche, 11h passées, je suis avec mon fils, la plupart du temps ma femme, et je regarde un film que mon fils aime à la télé. J'aime bien, j'allume toujours là, vous savez, moi je mets toujours un film quand je me réveille en fait, je n'écoute pas, je mets un film, mais n'importe lequel, hein, que je prends, même des vieux films, j'aime revoir tout d'un coup une scène ou découvrir une scène, même si je ne connais pas toute l'histoire.
Vous êtes plus film que série alors?
Ah totalement, oui.
Ah oui.
Ah oui, complètement. Oui. Film que série.
On va parler cinéma, ça d'accord. Tombe bien.
D'accord,
ça tombe bien.
Bien.
Et vous aimez cuisiner aussi le dimanche ou les autres jours de la semaine?
Oh, j'aime bien le restaurant. Je ne sais pas si c'est cuisiner, mais je vais être très honnête avec vous, je préfère aller au restaurant cuisiner parce que je suis meilleur client que cuisinier. Mais le dimanche, c'est vrai que c'est le jour où effectivement on peut se poser un peu et faire à manger avec les enfants. Quoi.
Eh ben, ça tombe bien parce qu'on a un vrai cuisinier ici au fourneau. Je vous présente notre chef David Radgeber, qui est un sociétaire, on peut le dire, hein, de la table du dimanche.
Ça,
bonjour David.
Ça. Bonjour, vous allez bien?
On va très bien. Vous œuvrez à Paris, dans le 14e arrondissement. Votre restaurant est une institution, ça s'appelle L'Assiette.
L'Assiette, hein.
Simple.
Simple, l'assiette, ouais.
Efficace, la tradition, ouais. La cuisine française lisible et identifiable,
voilà,
comme on le dit souvent.
Cuisine bourgeoise.
Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui alors pour fêter l'arrivée d'Arnaud Ducret avec ce beau film Tendre et saignant?
Ah, bah aujourd'hui, on va démarrer par la rillette de jarret de cochon.
J'ai vu ça, ouais.
Au foie gras.
Magnifique.
Donc, c'est un jarret de cochon confit. Tout est confit un peu en charpie. Là, il confit le thym, le laurier, le romarin.
D'accord.
Avec le foie gras, voilà. Tout est mis en bocaux. Et c'est dégusté sur un petit pain toasté, comme ça.
Qu'est-ce qu'on boit avec des rillettes? Eh bien, tiens, un petit vin de Loire, un petit chenin. Ça, c'est peut-être pas mal du tout, effectivement. Ah. Parce qu'on va avoir une belle fraîcheur et une belle acidité pour compenser le bon gras des rillettes. Avec plaisir, avec modération. Oui. Terre de l'élu, Rocavel. Voilà, ce sont des jeunes vignerons dans la Loire. Vous êtes blanc, vous êtes rouge.
C'est eux qui vous envoient ça, en fait, non?
Non, je viens de l'acheter chez un caviste en venant.
Est-ce que vous avez des gens qui vous envoient du vin?
Oui, mais ce n'est pas forcément les meilleurs.
Ah. Je vous ai ramené un petit CD Brahim.
qui tape bien.
Mais ok, d'accord, très bien, je vais déguster ça.
Alors, on va parler de votre film, Arnaud Ducret, dans Tendre et saignant, vous incarnez un boucher. Alors, vous travaillez d'ailleurs plus la viande rouge que le cochon qu'on va déguster aujourd'hui à la table du dimanche.
Même si à un moment dans le film, je dis quand même que c'est un cochon qui a eu une belle vie. C'est pour ça qu'il est mort.
Exactement. Et vous faites plaisir aussi à un moment avec une belle entrecôte de Salers.
Oui, exactement.
Vous dites qu'elle a été maturée longtemps et faut que la viande ait du goût. On raconte l'histoire de cette comédie romantique. Charlie, qui est incarnée par Géraldine Pellas, est rédactrice en chef d'un magazine de mode. Elle hérite de la boucherie familiale qui est tenue par Jean-François Stévenin. On salue sa mémoire, d'ailleurs.
On salue sa mémoire, qui est formidable dans le film. D'ailleurs, l'âme, son âme plane sur ce film.
Exactement, ouais. C'est très touchant. Elle veut vendre donc cette affaire, et elle vous rencontre, vous, par hasard, c'est ça qui est dingue, Martial, l'artisan boucher de son père. Elle rencontre totalement fortuite, on ne va pas tout raconter. Ouais. Et vous êtes bien décidé à vous battre pour sauver cette boucherie, et Charlie va être séduite, malgré elle, par votre charisme, le charisme de Martial Toussaint.
Oui, mais au départ, c'est là où la comédie est assez bien écrite par Christopher, entre autres, Thompson, c'est que ça démarre sur... on se rencontre déjà.
Oui.
Donc on se dit qu'est-ce qui va se passer derrière. C'est mais ça. Alors évidemment, je ne raconte pas par accident et par l'accident de la
vie. Par hasard.
Voilà, dans l'accident de la vie, nous allons nous retrouver après dans cette boucherie. Elle ne veut pas cette boucherie parce qu'elle renie totalement ce qu'elle a vécu quand elle était jeune avec son père. Elle est assez fâchée avec lui. Donc elle le voit très peu. Elle n'a pas envie de reprendre cette boucherie. Mais par la force de la vie, elle va peut-être être obligée de cohabiter avec moi, qui suis évidemment commis de son papa. Qui est décédé, et je me retrouve à cohabiter avec elle. Et moi, je suis passionné, moi, je veux garder cette boucherie.
Vous êtes passionné, on y croit à votre rôle de boucher, on vous voit boucher. Cette comédie romantique, je le dis aux auditeurs, allez la voir, elle est vraiment très réussie. C'est émouvant, c'est drôle, c'est la vraie comédie romantique, ouais. Et c'est pas si évident que ça de réussir une comédie romantique en France, je trouve.
D'une part, et avec en fond de toile...
La boucherie.
Pas qu'en fond de toile, mais la boucherie. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qui m'a plu dans le scénario, c'est que tout d'un coup... On se dit, le mec, c'est un boucher, ok, il va tout oppose entre les deux personnages, tout les oppose, et puis tout compte fait, ils vont quand même se apprendre à vivre à l'un et l'autre et à s'entraider. Et c'est vrai que Christopher Thompson traite ça avec. Et alors, et en plus, je dois le dire, et je ne me lance pas des fleurs, mais. Pas que pour moi, mais il a, comment dire, il rend sexy le boucher, quoi.
Carrément,
et
mais
c'est
oui.
Même eux qui le disent, c'est les bouchers qui viennent me voir en disant, vous nous rendez beau.
C'est inspiré du parcours d'Hugo Desnoyers, qui est un boucher parisien qui a fait une ascension vraiment fulgurante, incroyable, en allant lui-même sélectionner les bêtes sur pied dans nos campagnes. Ouais. Il les a vendues à sa petite clientèle de quartier au départ dans le 14e arrondissement de Paris, rue Boulard. Ouais. Hein, et ensuite, les chefs.
Le blanche, là, il a les chefs, les hôtels.
Les chefs sont venus chez lui.
Voilà. Et c'est un melting pot incroyable parce que quand on va chez Hugo, vous avez la petite. C'est ce que d'ailleurs a voulu retranscrire Christopher. Il y a la petite grand-mère du quartier, il y a le comédien qui vient, il y a le commercial, il y a tous ces gens-là qui se mélangent, le couple de bobos.
Oui, on voit vraiment le métier de boucher avec les fournisseurs, effectivement, les rencontres, les éleveurs. Il y a d'ailleurs un super casting parce qu'il y a on va chez des éleveurs, il y a des maquillons. Ah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On voit que ce sont des vrais éleveurs.
Des éleveurs dans le Cantal, on va les voir. C'est la première scène qu'on a tournée d'ailleurs. Avec Géraldine, on ne se connaissait pas encore très bien, mais on a tourné ses premières scènes où on est allé à 5h30 du mat, on s'est réveillé comme ils font, et on est allé voir les bêtes et tout, et on a tourné toutes ces séquences, on était dans le vif du sujet. Quoi.
Oui, c'est drôle et c'est émouvant. Vraiment, aller voir Tendre et Saignant au cinéma mercredi prochain, bien sûr qu'il faut manger. Tiens, on va goûter les rillettes. Présentez-nous vos petites rillettes, tiens, David Radgeber. Alors, du jarret de cochon demi-sel.
Jarret de cochon demi-sel, oui, mis en saumure. Donc dessalé, confit dans le jarret dans la graisse de canard à 80 degrés. Mmh. Et une fois que c'est sorti, on les épluche complètement. On enlève le gras, on garde que le maigre. Donc on perd à peu près 20%. Et là derrière, on fait confire le foie gras, à peu près 55 à cœur. Et je fais confire ail confit. On hache finement le thym, le laurier.
Le cochon est confit dans la graisse de canard.
Hein. Ouais.
Vous les servez à votre restaurant à l'assiette et vous les vendez aussi dans votre nouvelle adresse.
Ouais. C'est l'entrée qui ne change jamais du restaurant.
L'arrière-cuisine.
Et je les vends aussi à l'arrière-cuisine, à l'épicerie.
Arnaud Ducret, vous êtes marié depuis l'été dernier. Vous êtes à la tête.
Absolument pas. Pas du tout. Elle ne parle pas du tout français. Elle m'a dit oui. Moi, je suis assez content. Ouais. On s'est rencontrés sur Internet.
Vous êtes à la tête d'une famille nombreuse recomposée. À quoi ressemble la table du dimanche chez vous, tiens ?
Et moi, quand j'étais gamin, il n'y avait que ma sœur et moi. On était quatre. Là, on tourne la table, on est six avec quatre jeunes, trois ados et mon fils, Oscar, de 9 ans. Autant te dire que quand la nourriture arrive sur la table, il faut aller extrêmement vite. Ce que je ne savais pas faire. Donc là, j'ai fait waouh ! Quand je vois tout le monde, bling, bling, tu sais, c'est ça part là-bas, ça va droit, donne-moi le machin, donne-moi la moutarde, donne-moi le machin. Tout le monde se passe les plats et tu sens que ça mange, tu sais, un peu, là, les grandes familles italiennes, ça me dit blablabla. Et donc, c'est ce qui a changé. Alors en plus, maintenant, tu sais, ils ont 16 ans, les triplés, là, et c'est maintenant.
Les triplés de votre femme.
Les triplés de ma femme. Et si tu veux, maintenant, tu te retrouves avec des gamins qui mangent chacun un peu dans leur coin. Donc il faut quand même faire une espèce de réunion en leur disant on se retrouve ensemble et on mange ensemble.
Le pouvoir rassembleur de la table.
Totalement. Et effectivement, ils te disent non. Et puis en fait, quand on se retrouve à table tous ensemble, et ça commence à discuter, ça parle, et maman, et puis on parle de plein de choses. C'est ça la table, comme tu dis si bien.
Et après le déjeuner, c'est quoi le programme ? Balade ?
Après le déjeuner.
Gérard Lanvin, qui était là il n'y a pas longtemps, dit qu'il aime bien traîner devant la télé. Julien Clerc aussi.
J'aime bien traîner devant la télé, moi. Le dimanche, c'est très. Bah oui, mais c'est vrai, c'est très. Je regarde les reportages, des trucs comme ça. Je regarde un bon film porno avec les enfants, c'est un truc improbable. Non. Donc après, nous, on va se faire des petits tours. Ouais, on va
on va se faire des balades et puis les boutiques. Enfin voilà, par contre, on prend son temps, quoi. Alors là, je viens de terminer mon spectacle. Parce que, tu sais, j'étais à la Gaîté Montparnasse.
That's life, ouais. Absolument. Je suis venu vous voir à la Gaîté Montparnasse.
2 janvier, et je jouais deux fois le samedi et une fois le dimanche. Donc je n'avais le temps de rien. Et j'avais juste envie de prendre le temps de ne rien faire. Donc après la promo de ce film, je vais commencer à me poser un peu.
Un spectacle très physique, qui est en tournée d'ailleurs. On en parlera de votre spectacle aussi.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour en cuisine autour d'Arnaud Ducret avec le chef David Radguébert au fourneau. Alors, on a attaqué les rillettes pour le grignotage. Quel est le plat du jour, tiens, pour faire honneur à Arnaud et à nos auditeurs?
J'ai voulu faire un petit clin d'œil, justement. Je vais ramener deux belles côtes de cochon de Dordogne de l'ami Hugo. Parce que mon restaurant, je suis voisin d'Hugo, moi.
Hugo Desnoyers.
Et c'est mon pote, ouais.
Hugo Desnoyers qui a inspiré le rôle d'Arnaud Ducret dans Tendre et Saignant, cette comédie romantique.
Ne m'en veux pas, mais tu as totalement la figure du mec qui pourrait vendre des salaires.
Je suis auvergnien, moi.
D'accord, mais voilà.
Mais il savait pas.
Tout est lié. Je ne savais pas.
Je suis un bougnat de Paris, je suis un auvergnat.
Vous êtes d'où en Auvergne?
Moi, je suis né à Clermont-Ferrand.
D'accord.
Bon, on va parler de votre enfance. Tiens, Arnaud Ducret, vous êtes né à Rouen, un papa cariste chez Renault, une maman employée à la caisse des retraites. Quand vous parlez de votre enfance, alors ça, c'est étonnant, vous dites que vous avez été votre premier spectateur.
Bah oui, parce que je me faisais rire moi au début, mais comme les blagues me faisaient marrer, je me suis dit, tiens, ça va peut-être faire rire les autres. Et donc j'essayais.
Vous étiez devant votre glace, c'est ça,
faire des petits spectacles? Je faisais beaucoup de choses devant la glace. Dans le mimétisme, j'essayais de reproduire des choses. Il y a un truc que ma sœur adorait que je fasse, c'est que je lui faisais, on regardait Canal+, qu'on est des enfants de Canal aussi, avec ma maman, on regardait ça nulle part ailleurs à l'époque, et il y avait toujours à un moment le Festival de Cannes, on voyait à la fin les gens, les acteurs américains, français, monter les marches au ralenti. Et ma sœur adorait que je lui fasse ça. Donc je lui faisais au ralenti le mec qui montait, et je chutais à chaque fois, je faisais le mec qui tombe dans les escaliers, et ma sœur riait, elle avait des fous rires quoi, à me voir. Et le jour où j'ai monté les marches,
c'est ce que j'allais dire, vous les avez montés vraiment.
Ma sœur Mélanie m'a envoyé un petit message en me disant, oh, tu te rends compte Arnaud, on faisait les cons dans la chambre, tu me faisais ça et puis là tu les montes vraiment quoi.
Comme quoi il faut croire en ses rêves.
Mais il faut totalement croire en ses rêves.
Vous êtes un acteur vivant, joyeux. On va parler de votre spectacle tout à l'heure. Vous avez une énergie débordante sur scène. Vous êtes complètement convaincant dans ce rôle de boucher, d'entendre et saignant. Vous êtes humoriste et vous dites que le rire vous a sauvé d'une angoisse. C'est marrant quand on vous voit, on vous imagine pas du tout angoissé.
Oui, le rire m'a sauvé de l'angoisse d'être un cancre à l'école, de ne pas savoir ce que je ferais de ma vie. Et je travaille beaucoup dans l'affectif, donc moi j'ai besoin du regard des autres. Alors en tant que comédien, j'en ai totalement besoin, mais même avec les gens avec qui je travaille, j'ai besoin de me sentir bien avec la personne, de me sentir aimé.
En confiance et aimé.
Voilà, il y a des gens qui peuvent travailler avec des gens très durs, moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux travailler avec des gens joyeux et des gens qui sont gentils foncièrement et qui font les choses bien, en tout cas voilà. Et donc c'est vrai que l'humour à l'école, en tout cas parce que ça démarre là, a cassé ce mur qu'il y avait entre le prof et moi. Et tout d'un coup j'ai vu mes profs rire de ce que je faisais, et ça cassait ce truc de hiérarchique quoi. Et je me suis dit tout compte fait, je peux intéresser aussi les profs.
C'est ce qui vous a amené à la comédie, ça? C'est un spectacle de fin d'année à l'école quoi.
C'est un spectacle de fin d'année où tout d'un coup je joue et je me souviens très bien, je me mets sur les genoux de la prof de dessin. Je m'assois sur ses genoux, je faisais un ivrogne à l'époque, un personnage comme ça, et elle riait. Elle pouvait pas faire autrement que de me laisser faire, parce que je faisais le mec bourré, et tout le monde riait. Et puis j'ai vu qu'effectivement tout d'un coup ça avait une force extra, l'humour, le rire le comique a une force extraordinaire.
La séduction par le rire.
La séduction par le rire, c'est une force extraordinaire. Et puis alors je le répète souvent, mais c'est vrai que j'avais des vues sur une demoiselle qui me plaisait beaucoup. Je savais pas trop ce qu'elle allait faire. Et en fait, le jour où je passe le sketch à l'école, après le spectacle de fin d'année, elle vient vers moi, elle me dit « Tu fais quoi cet été ?» Donc je me dis « Ah !» Elle s'intéresse à moi, je vais faire ce métier.
Alors, vous êtes à l'affiche de Tendre et Saignant de Christopher Thompson, on le disait, Arnaud Ducret, une comédie romantique vraiment très réussie, et j'insiste là-dessus. Et c'est vrai qu'en général, les Anglais, les Américains sont très forts dans ce domaine. Vous aviez des références, vous aviez des modèles d'acteurs de comédie romantique ou de comédie romantique type?
Il y a Hugh Grant, Richard Gere.
C'est ça.
Pretty Woman, Hugh Grant, PS I Love You avec Frank
Gérard Butler.
Gérard Butler, pardonnez-moi, Gérard Butler. Ouais, PS I Love You, Patrick Swayze, j'en parle même pas dans Dirty Dancing. Ouais, ça, c'est toute mon enfance. Donc, ouais, c'est les références que j'avais. Harry rencontre Sally. C'est une grosse référence de Christopher Thompson, le réalisateur. Quand Harry rencontre Sally. Ça, c'est une de son film préféré. Et d'ailleurs, on le ressent, comme vous le dites, dans cette comédie romantique qui est Tendre et Saignant, que le 19 janvier au cinéma.
Absolument, mais il faut y aller vraiment.
On ressent vraiment cette fibre américaine que peut avoir Christopher Thompson. C'est vraiment son école.
Moi, ça m'a frappé, moi.
Et puis
le rythme, les rebondissements aussi.
Le rythme, les rebondissements, de partir du fait qu'ils se rencontrent au début. Donc, je le dis encore, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Puisque on part du fait qu'ils se sont déjà rencontrés, ils ont déjà consommé. Hein, je dévoile rien. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? Mais justement, tout ça est très très bien écrit.
Ce qui est hyper bien vu, voilà, c'est que vous vous rencontrez et il se trouve que vous êtes l'artisan numéro un d'une boucherie qui a vraiment pignon sur rue à Paris. Elle est la fille de ce boucher, mais elle veut pas reprendre l'affaire. Lui, il va lâcher l'affaire, il va mourir en plus. Alors là, c'est terrible, un rebondissement tout de suite.
Et alors, en fait, c'était son père l'a beaucoup initiée à la boucherie quand elle était jeune. Et puis à un moment, elle a dit stop. C'est beaucoup d'ailleurs. Vous savez, quand on est ado, tout d'un coup, quand on essaie de devenir un, on ne sait plus trop où on en est, on veut devenir un homme mais on ne l'est pas encore, ou une femme mais on ne l'est pas encore, donc tout d'un coup on peut très vite se fâcher avec la famille, vous savez, renier les parents, pas c'est les renier, ça. Mais oh, tu m'emmerdes, laisse-moi tranquille, c'est un peu ce qui se passe dans le film.
Et je le dis aux artisans bouchers qui nous écoutent, la boucherie a le premier rôle aussi. Hein,
la boucherie a totalement le premier rôle, et une chose très importante... Le lieu et le métier, et chose très importante, la place de la femme. C'est-à-dire que Géraldine Pellas, qui joue Charlie, quelle est la place de la femme dans un métier d'homme très important, et qui, heureusement, maintenant... se féminise aussi, et donc on a vraiment maintenant boucherie père et fille.
Et j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est qu'on y croit immédiatement à votre couple avec Géraldine Pellas. Ça, c'est quand même la base d'une comédie romantique, parce qu'il y en a plein justement qui sont ratés des comédies romantiques parce qu'on ne croit pas au couple. Et là, on y croit spontanément, immédiatement à votre couple.
Même moi, j'y crois, oui.
Bon, vous l'avez compris, hein, chers auditeurs, on a aimé cette comédie romantique et bouchère la semaine prochaine, mercredi, au cinéma. Ne bougez pas, on revient dans un instant. La journaliste.
Ne bougez pas, pardon.
Oui, c'est en Auvergnat, c'est comme ça qu'on dit ne bougez pas en Auvergnat.
Je parle pas l'Auvergnat couramment, mais
est-ce que tu parles le Louchébem? Tu connais le Louchébem?
Non, je ne parle pas.
Mais tu connais ça?
C'est la langue des bouchers.
L'argot des bouchers qui a été créé par les bouchers de Paris dans le Hall. C'était pour que le client ne comprenne pas ce qu'ils disent. C'était en fait, ils arnaquaient le client, mais il fallait pas qu'il comprenne.
Et vous le parlez dans le film.
J'en ai pas regardé grand chose, mais on le parle un peu. Mais alors, tu sais que c'est Paris, Lyon, et t'as beaucoup. Les autres ne connaissent pas vraiment le Louchébem. Il y a pas de ça, pas traversé Marseille, tout ça. Sympa.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Oh là là, les pièces, mais. Et attends.
Deux belles de côtes de cochon, mais on est 6, hein, faut bien non. ça. Hein.
Attendez, ouais. Je vous donne la forme de la côte de cochon, c'est qu'on est sur à peu près un appui-tête de Mercedes. C'est-à-dire que je vous le mets en haut du siège, tu poses ta tête dessus.
Mais c'est un cochon magnifique.
Il a un beau gras, regarde-moi ce beau gras.
Un gras de couverture, comme on dit. Bien épais.
Exactement.
Magnifique.
Et tu vois, là, on va se régaler parce qu'après, on va.
Mais c'est semelle de chaussure, le gras, quoi. C'est un truc.
Exactement. On dirait de la semelle de chaussure magnifique.
Le gras, c'est la perspective du goût.
Comment vous l'avez fait revenir, cette côte de cochon, David Radgeber?
J'ai pas mis de matière grasse. Je l'ai démarré, tu vois, il me l'avait détalonné un petit peu. Je l'ai démarré sur le gras, comme ça a perdu du gras. Et après, tout doucement, je l'ai fait colorer sur toutes ses faces et je l'ai mis un petit peu au four.
Combien de temps de cuisson?
Là, il y a à peu près 30 minutes de cuisson et autant de repos.
Alors, elle est revenue en cocotte et elle cuit à l'étouffée en cocotte?
Exactement, ouais.
Donc, c'est ce qui va permettre d'avoir une viande bien moelleuse, quoi.
Oui.
On vous a appris pour le film Tendre et saignant, Arnaud Ducret, à reconnaître une bonne viande, son mode d'élevage, la maturité d'une viande?
Pour être très honnête, on n'est pas allé jusque-là, mais on m'a appris à découper. Et je me suis imprégné de l'ambiance de la boucherie d'Hugo, avec tous ces gens qui se croisent et comment vendre, comment ils charment les clients, parce que c'est surtout ça, les boucheries, c'est quand le rideau de fer s'ouvre. En plus, chez Hugo, c'est le one-man show. Quoi.
C'est un théâtre. Comment vous êtes imprégné de ce métier, justement? Vous les avez regardés, vous les avez observés?
Je me suis mis dans un coin, pour le renommer Hugo.
Hugo Desnoyers.
Je me suis mis dans le coin de la boucherie. Puis à un moment, il m'a dit, bon, Arnaud, viens découper. Puis je venais le matin, on commençait pendant 2 heures à découper, il m'expliquait comment faire pour, vous savez, nous, on est des voleurs, hein, on vole les quelques petites mimiques.
Éponge.
Une éponge, on vole un peu ce que les gens font et puis on les reproduit à l'écran. Et puis après. C'était de voir comment il parlait à ses commis, comment il parlait aux clients. Il y a un moment dans le film, vous verrez, on jette un gigot, je crois, comme au rugby, tu sais, comme un ballon de rugby. Bon, ça, il le fait beaucoup, Hugo, avec ses, ça donne du spectacle. Les clients adorent. Quand il y a le pourboire, tout le monde crie merci.
Il y a une mise en scène, effectivement, du métier.
Ouais,
et ça, on le retrouve effectivement dans le film. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le film, à côté de vous, il y a de vrais bouchers, d'ailleurs.
Il y a de vrais bouchers qui. Alors, eux étaient là pour nous driver, tu vois, et puis nous, on était très demandeurs de ça, quand tout d'un coup, on se disait, tu crois que ça le fait, est-ce que c'est crédible? Et puis, nous, on était là pour les détendre, eux, face à la caméra, et puis pour créer cette team, très important. Moi, je voulais vraiment qu'on sente le passif, qu'on sente, voilà, avec les autres comiques, qu'on se dise, ouais, ok, c'est des mecs qui ont travaillé ensemble déjà il y a longtemps. Et voilà, et je voulais vraiment reproduire ça, et je crois que ça se voit vraiment à l'écran.
On revient sur l'histoire, hein, vous rencontrez Charlie, la fille de ce boucher qui veut passer la main, et malheureusement, il la passe plus vite que prévu puisqu'il meurt. Vous êtes le second de ce boucher, elle est dans la mode, donc c'est un univers complètement éloigné du vôtre. C'est deux mondes qui s'opposent, et en même temps, c'est votre rencontre du départ. Et ce qui est amusant, je trouve, on ne peut pas tout raconter, mais dans le film, à un moment, les deux mondes se croisent, parce qu'elle va revenir vers ses racines un petit peu, elle, et vous allez avoir une vraie ascension médiatique.
Une vraie ascension qui, grâce entre autres à elle et à son métier, où elle est plus dans le média, dans la com, dans ce genre de choses, ce qui fait qu'elle va moderniser aussi ma façon de faire à moi. Et elle va, je vais être un peu son bébé, son protégé, qui va. Est-ce que je vais pas m'envoler seul ou brûler les ailes, et jusqu'où aussi je suis prêt à aller dans le ridicule pour communiquer sur mon image.
C'est super, il y a une scène mais qui est fantastique.
On va pas la dire, mais
on raconte pas.
C'est un moment très drôle du film. Voilà, où tu dis, ah ouais, d'accord, donc le mec il est allé jusque-là, et même lui le fait en se disant, mais qu'est-ce que je fais
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, il se regarde en train de faire n'importe quoi.
En train de faire n'importe quoi. Donc ça parle aussi du. Et donc on revient sur le fait que de parler de cette passion et du métier, de la tradition, et de pas forcément s'envoler dans la consommation avec de la grande consommation. C'est de faire les choses avec intelligence.
Tendre et saignant, ça sort mercredi prochain au cinéma. Qu'est-ce que vous avez découvert, en préparant ce film sur le métier de boucher?
On se pose pas la question, on a l'impression que c'est un mec qui vient livrer avec un camion frigorifique, qui vient livrer les bouchers, puis mais faut, ça parle de l'éleveur en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi que eux, le boucher, sachent choisir les bons éleveurs, et d'ailleurs on le traite aussi dans le film, pour faire les choses intelligemment et avec passion et avec goût.
Et créer des relations de confiance.
Créer des relations de confiance, donc ça part de là en fait. Et c'est vrai que ça c'est un des trucs où maintenant que je le vois, je me dis, mais oui, effectivement, mais c'est vrai qu'on en parle, voilà. C'est-à-dire que tu vas voir les bêtes. Et dans le film entre autres, il va à la rencontre d'éleveurs qui respectent leurs bêtes et qui vont, parce qu'il y a aussi il y a aussi ce truc de mort, c'est-à-dire qu'on parle de la mort.
Bien sûr.
L'éleveur va accompagner la bête de sa naissance jusqu'à la mort, mais comment le fait-il pour nourrir après nous, la population, et ça parle de tout ça, de la transmission et de ces choses-là. Quoi.
Quand vous allez chez votre boucher maintenant, acheter du jambon ou acheter une entrecôte, vous avez un regard différent, vous les regardez différemment?
Je regarde différemment, ouais, puis Oui, c'est sûr que je regarde les pièces et je me dis, tiens, est-ce que ça, d'où ça vient? Tiens, celle-ci, elle a l'air très belle, celle-ci moins, voilà quoi.
Comment vous sélectionnez, vous, David Radguébert, les viandes que vous proposez à l'assiette dans votre restaurant? Pareil, vous avez des fournisseurs particuliers qui sont toujours les mêmes? Vous aimez aller sélectionner sur le terrain comme un boucher?
Oui, alors moi, je travaille dans des bouchers de quartier comme Hugo, et puis je travaille aussi avec un boucher chez moi, en province, qui, lui, par exemple, on fait le bœuf fin gras du Mézinc, de Haute-Loire.
Expliquez ce qu'est le fin gras du Mézinc.
Qui mange cette fameuse herbe, le mézinc.
Un foin.
Ouais. Et ça dure 3-4 mois de l'année, où on va chercher. Et on se partage une bête on est 3-4 chefs sur une vache. Par exemple. Mais ce qui est génial, c'est que si tu vois, on ne sait pas quel morceau on va recevoir.
D'accord.
On a des morceaux nobles et un peu moins nobles. Et,
tu dois faire avec.
Ouais, moi, je travaille comme ça, même en légumes, tu vois. On fait des AMAP, on reçoit et on ne va pas demander... On va pas demander un haricot vert de 5 cm, quoi. On travaille avec la nature.
C'est l'heure d'accueillir notre gastronome du dimanche. Il sait être tendre et saignant. Oui, il est là. C'est Emmanuel Rubin. Bonjour, Emmanuel Rubin.
Bonjour, Bem.
Comment?
Ah, il a dit bonjour. Ouais, bah,
C'est le louché Bem.
C'est le bonjour en louché Bem.
Redites-le.
Bonjour, Bem.
Bonjour, Bem. Vous parlez le bouché Lem, alors?
Oui, un peu, ouais.
Non, le louché Bem. C'est moi qui dis bouché Lem. C'est le louché Bem.
Non, mais moi, je suis un pur parigot, donc j'ai passé la moitié de mon enfance dans le quartier des Halles.
Ah ouais, donc tu connais.
Hein. Lonbass Lanéke, bonne année en louché Bem.
Ah, joli.
Pas du tout, c'est du breton.
En plus, c'est vrai, ça sonne breton, alors je suis d'accord.
De quoi on parle aujourd'hui, Emmanuel Rubin? Un petit clin d'œil au rôle de boucher d'Arnaud Ducret.
Énorme clin d'œil, puisque c'est un accessoire qui a quasiment presque un rôle dans le film, c'est le couteau.
J'ai cru que tu allais dire le tablier, dis donc.
Ça pourrait aussi. C'est les deux symboles. Et le couteau, c'est vraiment le prolongement du boucher. Ouais. Alors, à l'occasion d'un livre qui vient de sortir, je vais rendre un petit hommage à la lame.
Ah, tranchant le livre, c'est
tranchant,
ça.
C'est le titre d'ailleurs.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Si vous avez raté le début, vous le retrouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. C'est Arnaud Ducret qui est avec nous à table, à l'affiche actuellement de Tendre et Saignant, enfin pas actuellement, mercredi prochain. Tendre et Saignant, une comédie romantique et bouchère qu'il faut aller voir.
Alors avec tout ce qu'on mange, Laurent, pardon, je te coupe, mais il est hors de question que je fasse la vaisselle. Hein. Ça soit bien d'accord.
C'est vrai,
tu le dis à la prod, hein. Vous débrouillez, mais avec tout ce qu'on est en train d'envoyer là.
Oui, oui, c'est vrai qu'on envoie pas mal avec David Radgeber au fourneau. On a eu des rillettes, on a une côte de cochon qui vient de Dordogne, qui est à la casserole. Et la garniture, tiens, légumière,
racontez-nous. Un petit gratin dauphinois
qui va bien me caler, quoi.
Et restez avec nous parce qu'on va vous expliquer comment réussir le gratin dauphinois dans les règles de l'art. Parce qu'il y a quelques règles à respecter, hein, comme tous les classiques.
Ah oui.
Arnaud Ducret, je le disais, vous serez à l'affiche de Tendre et Saignant ce mercredi. Vous êtes aussi sur scène avec That's Life, votre spectacle qui est en tournée, que vous avez joué à Paris au Théâtre de la Gaîté. Là, sur scène, vous ne jouez pas au boucher, mais vous jouez avec votre vie, hein, avec votre famille aussi.
Je parle des 5 ans qui séparent mon premier spectacle à celui que j'ai actuellement, et puis de comment j'ai avancé dans le métier, comment j'ai pu en arriver là où je suis maintenant. Mais surtout, ça parle du temps qui passe vite, beaucoup trop vite. Et ça rappelle à plein de gens que le temps est important et qu'il faut vraiment en profiter, que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Et j'ai beaucoup de gens là, vraiment, pour le spectacle, je le remarque vraiment, qui sortent et qui me disent on a envie de faire la fête, on a envie de vivre, on a envie de. Donc ça veut dire que ce spectacle, et j'en suis fier parce que c'est ce que je voulais, amène a priori beaucoup de joie et de positivité. Voilà, ça, un boost d'énergie, quoi.
On se marre, on est avec vous. Il y a une foule de personnages que vous jouez les uns derrière les autres. Vous êtes un acteur très physique, très visuel. Vous jouez, vous chantez, vous mimez, vous nous embarquez vraiment dans une histoire.
Si vous voulez vraiment voir un mime de film porno, il faut vraiment venir voir le film parce qu'il y a un sketch là-dessus.
Exactement. Mais parce que vous avez fait du doublage.
J'ai fait du doublage de film porno. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns qui m'ont quand même donné l'idée d'en faire un sketch. Parce que, juste pour lancer le sketch, hein, mais je ne le ferai pas, mais pour dire, voilà, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de budget. Donc, moi, on me demandait de doubler tout et tout le monde. Voilà. Donc, venez voir le spectacle.
That's Life. Arnaud Ducret, vous êtes un acteur complet. À chaque film, votre palette s'élargit. On le voit encore hein, dans ce film Tendre et Saignant. Et depuis quelques années, on aime bien voir des héritiers à Jean-Paul Belmondo. On vous rapproche d'ailleurs souvent de Jean Dujardin, tous les deux. Il y a une compétition entre vous, comme ça, ou pas du tout?
Je le dis sans prétention aucune, que pour les gens qui nous écoutent, mais c'est parce qu'on me l'a dit souvent qu'il y avait du Ventura. Quand j'étais, je jouais, il y a une espèce de grand mec comme ça, costaud.
Et on fait,
alors moi, évidemment, je le prends avec beaucoup de joie et avec un immense respect pour Monsieur Ventura. Et voilà, j'en suis très fier. Mais non, je ne sais pas s'il y a de la compétition. J'ai envie de vous dire, tous les rôles que Jean refuse, moi, je les prends. Vous savez, c'est ça, hein, la carrière. La carrière peut se faire sur les refus des autres. Hein. Donc, mais si j'ai le quart de la carrière, alors j'aimerais beaucoup tourner avec Jean. Du jardin. Gilles Lelouch, que j'aime beaucoup, on s'est croisé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on ne se connaissait pas énormément, on a vite fait échanger ensemble et ça m'a fait plaisir de le croiser. J'aimerais beaucoup tourner avec Gilles. Toute cette famille de Guillaume Canet, tout ça, c'est.
Oui, vous êtes la même famille d'acteurs en fait, effectivement.
Pas, en tout cas, j'ai eu un petit passage avec Guillaume Canet pour un film de Cédric Kahn. Ce sont des gens avec qui j'aimerais vraiment travailler et comme je leur dis souvent quand je les croise et qu'on en parle, je le dis parce que si ce n'est pas moi qui vous le dis, personne ne vous le dira. Donc je trouve que c'est important de, quand tu aimes un autre acteur, de lui dire que ce qu'il fait, c'est super.
Et avec Jean Dujardin, d'ailleurs, vous avez un parcours similaire. Vous avez été révélé par la télévision tous les deux. Vous avez fait pas mal de petites scènes.
Lui, il a essuyé les plâtres avec, un gars et une fille. Moi, je suis arrivé avec Parents mode d'emploi derrière. J'ai eu une proposition de travail au cinéma que je pense peut-être, je m'avance peut-être, mais que peut-être Jean n'avait pas à l'époque parce qu'ils ont vraiment essuyé les plâtres de ce passage de petit écran au cinéma. Donc, il nous a ouvert pas mal de voies.
Et c'est vrai que vous n'arrêtez pas d'enchaîner les rôles au cinéma. On en parlera tout à l'heure. Vous avez vraiment des modèles, des références. Vous parlez de Ventura, effectivement. Maintenant que vous me le dites, oui, physiquement, il y a une vraie parenté. Ouais.
Belmondo, en plus, dans l'esprit de qu'était le bonhomme aussi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. De Bourville. Et un mec que j'adore.
Sur la tendresse.
Puis grand comédien. A priori, je le sais, de foncièrement gentil. Ça, c'est moi, j'aime les gens foncièrement gentils. Après, en américain, j'ai Jack Nicholson que j'adore, qui est à Animal, Mel Gibson, Denzel Washington. Sont des comédiens qui me rendent dingue, que j'adore. Voilà, c'est tous ces. Alors, il y en a plein d'autres. Hein, là, par exemple, je vous disais Gilles Lelouch que j'aime beaucoup, Jean Dujardin. Il y a Brasseur que j'aimais beaucoup. Enfin, voilà, des comédiens comme ça qui me plaisent.
Arnaud Ducret, on va quitter notre plan de travail ici. Ah. On laisse David Radgeber au fourneau et on retrouve Emmanuel Rubin.
Pourquoi tu prends mon verre de blanc, toi? Oh, il y a un mec qui se barre avec mon verre. Oh putain.
C'est pour vous l'apporter à table. Vous avez vu le service? Jusqu'où va le service à cette table du dimanche, quand même? Caroline Piguzzi va nous retrouver dans un instant en face avec son beau livre « Pourquoi eux ?» qui est paru chez Plon, où elle a rencontré les grands de ce monde. On a de beaux destins aussi. Qui
est aussi gros que la côte de cochon.
Ah, c'est, oui, exactement. Le livre est aussi épais que la côte de cochon cuisinée par David Radgeber. Vous faites bien de le dire, oui. Emmanuel Rubin en parlait du rôle de boucher incarné par Arnaud Ducret dans Tendre et Saignant mercredi prochain. Vous avez du coup tenu à nous faire l'éloge du couteau ce dimanche, parce que c'est vrai que c'est un beau prolongement du boucher et du cuisinier.
Exactement. Alors, je ne sais pas si l'occasion fait le cochon ou le larron, mais c'est vrai qu'au mois de novembre dernier, en catimini, oh là là, un verre de cassé. Enfin, c'est une tasse à café, c'est pas
ça,
très
ça
grave.
Ça porte bonheur.
J'ai fait, c'est malentille, j'ai fait tomber malentille.
C'est du verre blanc.
Mais en novembre dernier, en catimini, à compte d'auteur, sur un ouvrage qui s'appelle Tranchant, le bien nommé Tranchant, aux éditions Alternatives. Et ce livre, petit à petit, eh bien, il fait succès. Il s'installe surtout dans la bibliothèque idéale du gastronome, parce que c'est un ouvrage signé de deux photographes, des photographes IPEN plutôt de l'univers de la mode. Ils ont travaillé pour des grands titres à papier glacé type Vanity Fair. Et ils ont eu l'idée de rendre hommage au couteau. Mais alors souvent, quand on parle de couteau dans la littérature, vous savez, ce sont des albums où on voit des couteaux un peu vierges. Là, pas du tout, ils l'ont humanisé.
Mais alors, c'est vrai qu'avant l'ouvrage, il y a surtout une drôle d'aventure.
Une aventure, désormais, comme beaucoup, qui est née durant le confinement. Les deux photographes installent un studio et là, ils ont l'idée de faire passer tout un tas de personnages avec leurs couteaux. Alors, ces personnages, ce sont d'abord des chefs, mais aussi des bouchers, bien sûr, des pâtissiers. Alors, les chefs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés voir les stars et les moins stars. Le grand chef comme le commis, la femme comme l'homme, la vieille génération comme la jeune. Les stars et les moins stars. Et il y a aussi, bien sûr, je vous l'ai dit, des bouchers, des boulangers pâtissiers. Il y a un aiguiseur, il y a des forgerons, il y a un pizzaiolo. Il y a aussi trois journalistes, trois auteurs. Ça, je ne sais pas vraiment pourquoi ils sont là, ceux-là. Mais bon, l'ouvrage est très réussi. Ouais.
Le résultat vous a touché, vraiment.
Il m'a touché parce que ce sont des photos donc, en noir et blanc où on voit chacun de ces artisans avec leur couteau. Et puis, il y a des petites interviews très ciselées. Et là, en creux, ça raconte vraiment le lien de l'outil et de l'artisan. Et je dirais même plus que le lien, la complicité. Et c'est vrai qu'ils en parlent très très bien, parce que c'est quoi ? C'est l'éloge du geste, c'est l'intelligence de la main, puis c'est aussi le rapport qu'on a avec la fabrication artisanale du couteau. Vous savez, quand vous avez un couteau en poche, vous l'estimez du grain de votre doigt, et on aime le travail de la lame, du manche, le poids. Et tous les couteaux d'ailleurs traversent l'ouvrage, hein. Ça va du couteau de bio, du couteau de cuisine, du couteau de travail, du couteau fétiche, du couteau de poche. C'est assez émouvant. Et puis surtout, il y a le paradoxe du couteau. Le couteau, c'est une arme, c'est offensif, c'est agressif. Et là, par le génie de l'homme, eh bien, il est domestiqué, il est pacifié, il est apprivoisé. Et moi, je trouve que c'est un très, très bel hommage à nos métiers de la bouche et au talent de ces gens-là.
Vous dites le titre ?
Tranchant.
Tranchant, voilà, ça c'est pour vous.
Ça me donne très... Vous l'expliquez tellement bien, faut vous le... décrivez tellement bien, j'ai vraiment envie de voir les photos et de voir ce...
Il y a une scène très belle dans le film Tendre et Saignant où justement vous repartez avec un couteau, oui, auquel vous tenez énormément.
Mon patron m'a dit ça, il me l'avait offert, c'est à moi, je le garde. Et je pars avec.
Et tous les bouchers qui nous écoutent savent de quoi on parle.
Hugo m'en a offert un, Hugo Denoyer, à la fin, il m'a dit, tiens Arnaud, je te l'offre, tout usé, tu sais, ça m'a fait énormément plaisir.
Hugo Denoyer, boucher parisien qui a inspiré votre personnage dans Tendre et Saignant qui sort mercredi prochain.
La table du dimanche. Laurent Mariotte.
On revient avec Arnaud Ducret, avec le chef David Radgeber en cuisine. On s'apprête à déguster une magnifique côte de cochon de Dordogne. Arnaud Ducret, vous êtes sur scène en ce moment avec That's Life, votre spectacle. Vous dites souvent que la scène, c'est viscéral pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je raconte souvent cette histoire, mais c'est Jamel Debbouze qui m'avait dit, quand j'avais fait les Marrakech du Rire, on avait fait une scène ensemble, il m'avait dit, tu sais Arnaud, ne perds jamais la scène parce que c'est ce qui te lie avec ton public. Tu fais un film, ça marche, c'est la cerise sur le gâteau, ton film il marche pas, entre deux, c'est des fois, t'as des gros coups de blues, on va dire, tu vois. Et au moins quand tu as ton spectacle, c'est ce qui te maintient avec les gens et c'est ce qui fait que tu existes artistiquement à côté. Et donc j'avais entendu ce qu'il m'avait dit et je l'ai compris effectivement quand j'ai sorti des films qui ont plus ou moins bien marché, mais en tout cas, même s'ils ont marché, entre deux, il y a un truc qui te manque, qui est effectivement le lien avec le public que tu as besoin de rencontrer. Alors il faut perdre cette... avoir envie de retrouver cette envie pour remonter sur scène.
Alors, je vous l'ai dit, hein, votre jeu est très physique, très visuel. Vous passez d'un personnage à l'autre avec une rapidité incroyable. Est-ce qu'il y a des artistes de One Man Show qui vous ont inspiré plus que d'autres à vos débuts ?
Les Inconnus, hein, évidemment, le Splendide et Albert Dupontel. Sont les... Et sur le premier One Man de Gad Elmaleh, cette espèce de mec, on va dire, beau, percussionniste, danseur. Le corps, me disait, waouh, ce qu'il faisait avec son corps, je disais, mais j'adore ça, moi, ça me parle. Et c'est un des mecs qui m'a aussi beaucoup inspiré.
Non, mais c'est vrai que quand on vous voit sur scène en ce moment, là, vous êtes en tournée avec That's Life, on pense à Dupontel aussi, parce qu'il y a une façon Dupontel, d'habiter la scène comme ça, vous êtes physique, enfin, vous n'économisez pas votre énergie et votre effort.
Hein. Dupontel qui fait Rambo, j'ai bien fait Rambo, putain. Et là, quand tu le vois arriver, ce mec balèze, qui se tient les entrejambes, qui est en sueur, qui est comme ça, je n'avais jamais vu ça sur scène.
Explosion d'énergie,
et puis d'écriture, de folie, et je me suis dit, waouh, quel est ce mec? Et c'est le premier mec qui m'a inspiré.
J'ai fait le compte, Arnaud Ducret, vous avez joué dans 27 films, 9 séries, on vous a vu incarner des personnages très variés, hein, Dupont de Ligonnès dans une série sur M6, Jacques Chirac dans Adieu de Gaulle, Adieu, un boucher mercredi prochain au cinéma. Qui d'autre vous aimeriez jouer?
Un beau film policier, un évadé, enfin je veux dire un prisonnier.
Ah oui, les histoires d'évasion.
Un mec
de casse, les histoires de casse.
Par exemple, on n'a plus de film, ça revient un peu, ça commence, on pousse, et j'arrête pas de le dire, mais un film d'aventure, de comédie d'aventure, ce que faisait Gérard Houry, avec Les Aventuriers, La Grande Vadrouille, L'As des As. Tous ces films-là, je crois que les gens ont très envie de ça. D'ailleurs, on le voit au cinéma, vous savez, ils font toutes les analyses et ils se rendent compte que ce qui marche, c'est soit les films d'effets spéciaux, ou soit éventuellement ces films d'aventure, de comédie d'aventure et tout. C'est des films qui plaisent aux gens. Les gens ont besoin de s'évader.
La vie est une aventure et ce n'est pas notre invité qui va nous dire le contraire. Caroline Piguzzi, journaliste, grand reporter, vient nous voir avec un livre, attention, aussi épais qu'une côte de cochon, comme on le disait. Oui, et c'est un bel hommage dans notre bouche, Caroline Piguzzi. Bonjour, Caroline.
Bonjour.
Merci d'être là à la table du dimanche.
Vous voyez, c'est à l'inverse, parce que moi, je suis une de vos groupies, parce que je vous suis tous les jours avec vos recettes.
Oh, vous êtes gentil. Parce que la table, c'est un domaine qui vous connaît, parce que Caroline Piguzzi, quand même, vous êtes connue et réputée pour organiser les plus grands dîners auxquels le tout Paris se presse.
Je n'ai jamais été invitée.
Mais moi non plus.
Non, mais là, j'en ai pas fait depuis longtemps, parce qu'avec le livre, pendant pratiquement 10 mois, j'ai absolument pas donné de dîner, parce que j'étais le nez sur mon livre et j'écrivais de 6h du soir à 2h du matin.
Mais racontez-nous, qui vient dans ces grands dîners que vous faites? Qui vous aimez retrouver autour de la table? Parce que vous organisez des rencontres aussi, hein, j'ai l'impression.
Oui, mais ça, je fais ça depuis toujours, parce que j'étais à l'école en Italie. Et en Italie, au programme de classe de première, il y a un cours de cuisine, parce qu'on considérait à l'époque que c'était aussi important pour les jeunes filles qui devaient se marier de savoir faire la cuisine que de faire des études. Donc très tôt, j'ai appris à faire la cuisine et j'ai toujours fait. Donc je trouve que c'est la seule façon de voir ses amis facilement, c'est autour de sa propre cuisine. Donc,
des artistes, des hommes politiques parfois, des journalistes.
J'ai eu beaucoup, j'ai eu Jacques Chirac, j'ai eu Valéry Giscard d'Estaing, j'ai eu le président Macron avant qu'il soit président, j'ai eu François Hollande, j'en ai eu beaucoup.
Vous avez fait à manger, pardonnez-moi je vous coupe, mais vous avez fait à manger pour monsieur Chirac?
Oui, plein de fois.
D'accord, grand mangeur en plus. Il a...
Oui, non, mais ce qui était merveilleux avec Jacques Chirac, c'est que ses yeux brillaient avant même qu'il soit à table, il regardait. Et puis alors, la dernière fois qu'il était venu, j'avais un teckel que j'avais marié avec un border terrier. J'appelais ça des border teckels. Et il y avait 4 bébés, je les avais mis dans un parc dans ma cuisine, le parc de mes enfants autrefois. Et Chirac en a pris 2, un sur chaque genou. Et il les caressait, il était émerveillé. J'ai même une photo dans le livre. Et il a dit, j'emporte 2 chiens. Bernadette lui a dit, écoutez Jacques, dans ce cas-là, je divorce. Il a dit, non, c'est trop tard.
Et qu'est-ce que vous lui aviez fait à manger, vous souvenez?
Des pâtes au citron et à la vodka.
Ah oui, il paraît que c'est un grand classique, ça. Oui, oui.
Parce qu'il voulait un repas italien.
Alors, de Gaulle au pape François, en passant par Jean Todt, vous racontez des destins exceptionnels dans ce livre. Je me dis que votre papa aurait pu y figurer quand même.
Hein, oui, c'est vrai.
Votre papa, quand même, faut en dire un mot, capitaine de l'industrie, monsieur Simca, comme on l'appelait, grand patron de la marque Simca.
J'ai un petit musée Simca chez moi, dans mon sous-sol, avec 9 voitures, des vraies voitures.
Des amateurs de voitures
c'est
qui nous écoutent.
C'est
un grand sous-sol.
La Simca 1000.
La Simca est petite. Hein.
La Simca 1000, c'est si facile en Simca 1000. C'était ça la publicité.
Alors, pourquoi eux, dans ce livre, pourquoi eux, pourquoi Jean-Paul II, Elisabeth Badinter, Brigitte Bardot, la reine Elisabeth?
D'abord, c'est coup de cœur, parce que, bon, il y a ce qu'on fait, parce que l'actualité de Paris Match le dicte, mais après ça, il y a ce qu'on garde dans des cahiers, et chaque personnage est dans un cahier. La frustration, comme vous le savez, quand on est dans un journal, c'est qu'évidemment, on ne peut pas tout écrire. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le livre qui en fait, étaient dans les cahiers, qui n'étaient pas dans les articles de Match et que j'ai rajouté. Donc, c'est pas du tout... En fait, j'ai dû réécrire complètement ce livre. j'ai dû écrire ces 345 pages en mettant justement souvent ce qui n'était pas dans le journal.
Non, ce qui est de touchant dans l'ouvrage, c'est que vous avez beaucoup travaillé, vous l'avez dit, mais elles sont datées, les interviews. Donc on a aussi l'impression de lire un livre d'histoire, c'est-à-dire qu'on voit des interviews qui ont été faites en 99, en 2000, en 2003, l'histoire est passée par là, et d'affois, ce que peuvent dire les personnes interviewées ont un peu évolué dans leur bouche ou dans l'époque.
Et il y en a qui n'ont pas du tout vieilli. Et
oui, aussi.
C'est très intéressant, ça. Et par exemple, il y en a un qui est très, très amusant, je crois, enfin, je ne veux pas me faire des autocompliments, c'est l'amiral de Gaulle, qui est formidable parce qu'il a beaucoup d'humour. Je l'ai interviewé la dernière fois juste avant l'été, parce que c'est une des dernières interviews. Et alors, quand il n'a pas envie de répondre sur quelque chose, il dit « J'ai fini par lâcher l'affaire ». Et l'histoire s'arrête là. Je trouve que c'est une formule géniale parce que vous ne pouvez plus poser de questions.
J'ai découvert en lisant votre livre, justement, à propos du fils du général de Gaulle, qui s'appelle Philippe,
oui, l'amiral.
Qui avait eu une rumeur comme quoi il s'appelait Philippe parce qu'il aurait été le filleul du maréchal Pétain.
Oui, mais ça, c'est pas vrai. C'est une rumeur très déstabilisante et déplaisante qui est fausse.
Mais qu'est-ce qu'est la rumeur ? C'est le prénom qui serait donné au nom de moi ?
Oui, c'est le prénom qui lui avait été donné. En fait, c'était le nom d'un de ses oncles, parce que dans ce genre de famille, on donne toujours le prénom de quelqu'un de la famille qui a déjà porté.
Il y a une des règles, vous dites, hein, pour réaliser ces interviews, c'est de ne jamais trahir la confiance de son interlocuteur. C'est ce que vous dites, hein, dans l'avant-propos de votre livre. Mais on pourrait se demander quelle est la distance, la limite entre la confiance et la connivence aussi, peut-être, parfois, non ?
Bon, il y a deux choses. D'abord, il y a l'instinct féminin. Je pense que ça joue beaucoup. Et il y a une chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, qui a beaucoup changé, c'est qu'on pouvait avoir avec les hommes politiques une relation personnelle, une relation humaine. Il n'y avait pas de tweet, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas tout ça. Et on avait, j'oserais le dire, une vraie amitié avec certains hommes politiques. Ce n'est pas pour ça d'ailleurs qu'on les encensait dans notre journal, parce qu'on ne milite pas, ce n'est pas le sujet. Maintenant, c'est impossible. Vous comprenez ? D'abord, on pouvait les avoir en direct. Il n'y avait pas de portable, mais on pouvait leur parler en direct parce que vous avez une assistante qui vous les passait ou ils prenaient directement leur téléphone. Maintenant, vous parlez qu'à des mails, vous envoyez des textos, vous ne leur parlez jamais. Et quand vous avez un rendez-vous, il y a toujours un directeur de la communication à côté qui, quand il dit une phrase, les reprend. Et la spontanéité est une chose qui a complètement disparu. Je trouve que notre métier, cette forme de journalisme a disparu.
Et puisque vous êtes dans une forme bien particulière, qui est celle de l'interview, est-ce que vos interviews sont relues ? Est-ce qu'elles ont été relues ? Parce que ça aussi, c'est un travers, et notamment de nos politiques, c'est qu'on nous fait croire que les interviews sont, comme vous dites, spontanées, alors qu'elles sont lues, relues et corrigées. Et c'est pas la langue de bois, c'est la forêt tout entière au final.
Je vais vous dire, pas du tout. Et ce qui m'a le plus dérangé, c'est que quand j'ai interviewé le pape, je l'ai interviewé en italien, évidemment. Et j'étais très embêté parce que je me suis dit, bon, j'ai beau avoir été à l'école en Italie, parler italien, il y a sûrement des mots que j'ai mal compris parce que lui est quand même argentin, donc finalement il traduit de l'espagnol à l'italien, même si l'italien a aussi sa langue maternelle. Si j'ai écrit une bêtise ou mal compris ce qu'a dit le pape, c'est catastrophique. Donc j'ai envoyé un mail en lui disant, très Saint-Père, est-ce que j'aimerais beaucoup que vous relisiez l'interview. Et comme il parle espagnol et qu'il souvent, il me répond un mail que j'ai gardé parce que c'était une preuve avec écrit « Je te fais confiance ». Et j'ai trouvé ça très lourd. Et jusqu'à la sortie de l'interview, qui était une semaine après, enfin 4 jours après finalement, je suis allé à Rome lui apporter. Mon cœur battait en me disant « Bon, le pape m'aime bien, mais forcément je suis sur une patinoire olympique de peau de banane de mes confrères, notamment français, qui n'avaient pas eu l'interview. Ils vont sûrement relever des choses horribles. » Et j'ai passé une très mauvaise semaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je n'étais pas du tout dans la gloire, mais dans l'angoisse.
Alors, des destins exceptionnels, effectivement. Vous vous posez la question, pourquoi eux ? Pourquoi ce destin exceptionnel ? Qu'est-ce qu'ils ont de commun, tous ces destins exceptionnels ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ? Est-ce qu'il y a un point commun ?
Oui, la passion absolue de ce qu'ils font et la concentration. Ce sont des gens très concentrés sur ce qu'ils font et qui ne négligent rien. C'est un peu faire savoir et savoir-faire dans tous ces cas-là.
Oui, parce que ça va de la reine d'Angleterre à des capitaines d'industrie. Beaucoup de gens qui ont un rapport avec la religion, parce que vous êtes connu pour être une spécialiste aussi de la religion catholique. Et vous avez quand même eu des entretiens privilégiés avec différents papes. Et
oui, le dernier, je l'ai interviewé 3 fois. Je n'étais pas mécontente parce que j'ai doublé tous mes collègues français de journaux catholiques. Parce que le problème, c'est que les collègues français de journaux catholiques, ils passent leur temps à dire au pape, la Sainte Vierge est toujours vierge. Enfin, ce genre de vocabulaire. Ça, il sait, il n'a pas besoin, ça n'intéresse pas. Trop. Donc moi, je parlais de choses qui l'amusaient un peu plus.
Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, tiens, ce pape-là ?
Qu'est-ce qu'il a ? Il est très spontané. Il est très chaleureux et quelquefois très sévère. Et je crois qu'il est très authentique. Et puis, il a une chose, mais qu'il partage néanmoins avec les autres papes. Mais ça, je rajoute, c'est que ce qui est fascinant avec les papes, c'est quand ils vous parlent, vous avez l'impression qu'ils vous regardent droit dans les yeux et ils regardent que vous. Comme vous dites, c'est quand même la personne la plus connue de la Terre. C'est assez grisant de voir qu'il ne parle qu'à vous.
Il y a une photo, il éclate. D'ailleurs, je me permets, il y a une photo, il, effectivement, on le voit éclater de rire, il parle avec vous. Et il est...
Oui, parce que je le fais rire aussi, ouais, j'essaye. Parce que, justement, je ne dis pas que la Sainte Vierge est toujours vierge. Moi, j'ai des doutes, alors je lui
parle d'autre chose. Vous pourriez incarner un pape, Arnaud Durand.
Il serait très bon, hein, oui. Ah,
merci, c'est gentil. Bah, oui,
il est un peu jeune.
Encore oui, un peu jeune.
Un jeune,
ouais.
Pape.
Un jeune pape, oui. Mais je. Non, bah, avec grand plaisir. Alors, moi, je
mais il est trop jeune. Hein. Il faut que vous vous grimiez, que vous vous vieillissiez.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être des nôtres si vous êtes là depuis 11h. La table du dimanche est dressée autour d'Arnaud Ducret à l'occasion de la sortie de son film Tendre et saignant, un très beau film avec Géraldine Pellas, merci, de Christopher Thompson en salle dès mercredi prochain. Bientôt. Je rappelle aussi votre spectacle, That's Life, sur les routes actuellement, à Épinal le 28 janvier, à Bordeaux le 4 février, à Lille le 6 mars et au Havre le 7 mai. Caroline Piguzzi vient de nous rejoindre avec un livre consacré au destin hors du commun, Pourquoi eux, paru chez Plon. On parlait du pape juste avant la pause. Vous avez passé du temps à table, vous disiez, avec
non,
le pape.
Non, ce n'est pas exactement ça. Il déjeune dans la salle à manger de Santa Marta, qui est là où il vit au Vatican. Et il y a, lui, déjeune avec son secrétaire et généralement un invité. Puis il y a plein d'autres tables, des évêques, des gens du Vatican, des invités comme moi, quelquefois. Et alors, le grand truc, c'est que le pape choisit un plat, et pour être sûr que personne ne soit empoisonné, même si on ne le dit pas, tout le monde prend la même chose que lui. Il choisit à dernière minute, et donc les gens qui partagent.
Ah oui, il y a un protocole, comme
ça.
On en est encore là, surtout.
Oui, et alors là-dessus, il se passe une chose assez amusante, c'est que comme il est poli, il parle à ses invités, son plat refroidit. Donc il prend son assiette et il va au micro-ondes. Et il fait la queue au micro-ondes. Et ça, c'est extraordinaire parce que là, vous voyez une procession. Vous voyez tous les gens qui sont dans la salle ou un certain nombre qui espèrent lui parler, qui sont derrière avec leur plat pour aller au micro-ondes. La grande question, est-ce qu'il va se retourner pour leur parler ou il va se concentrer sur son assiette et pas leur parler ? Tout arrive. Alors, quelquefois, il parle aux gens qui sont derrière. Il leur demande comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Quelquefois, il a faim, il est pressé. Il met son plat dans le micro-ondes et il repart. Et ça, je dois dire, c'est un spectacle extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu de chance. Le jour où je suis allée, je me suis mise un peu derrière lui pour failloter un peu, avouons-le. Ben, il ne s'est pas retourné, il ne m'a pas parlé ce jour-là, mais il m'avait beaucoup parlé dans les années.
Ça va être compliqué, c'est le jour où il parle au micro-ondes.
Là, on dit, ah, ça lui arrive. On peut croiser le pape au self, quand même. Ça, c'est
oui, et c'est pas vraiment un self. On sert les gens. Il y a des maîtres d'hôtel très distingués qui viennent et qui vous demandent ce que vous voulez manger. Et il y a quelques plats. Ce n'est pas très bon. Hein. C'est comme des. Non, je vais vous dire la vérité. En vérité, c'est comme des cantines de lieux que nous connaissons. Je ne donnerai pas de nom de société parce que c'est pas gentil. Mais bon,
on s'impolit.
C'est moyen.
On retrouve Jacques Chirac dans votre livre. Vous avez incarné Jacques Chirac, Arnaud Ducret.
Oui, pour Adieu de Gaulle. Donc j'ai joué Jacques Chirac en 68. Enfin, à l'époque 68. Donc j'étais le plus jeune sur le tournage. Et il était le plus jeune à peu près, je crois, d'ailleurs, au gouvernement. Avec Didier Besas, feu Didier Besas, qui nous a quittés, qui jouait Pompidou. Et Pierre Vernier, ami de Jean-Paul Belmondo, qui jouait De Gaulle, qui est formidable. D'ailleurs, il a eu le prix d'interprétation à La Rochelle pour ça. Ouais, c'était extraordinaire. C'était mes premiers rôles avec des comédiens, entre autres, qui étaient des statures. Et j'étais très, très impressionné et je me suis éclaté. J'espère que notre président Chirac l'a regardé. Donc.
Comment vous vous êtes préparé pour incarner Chirac ? Vous le regardez à travers des reportages ?
Je regarde à travers des reportages. Je voulais un peu amener cette... J'ai descendu ma voix. Pour avoir un peu ce qu'il avait, ou en tout cas me vieillir, parce que j'étais plus jeune que lui, je crois, même quand il était au gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé, pour voir la petite histoire, je suis arrivé au casting. Le réalisateur m'attendait sur la place des Abbesses et je suis arrivé habillé avec un costume, évidemment, la cravate. Et j'ai demandé à un opticien de me prêter des lunettes.
Ah oui,
et je lui ai offert une bouteille de champagne. J'ai dit, donnez-moi des lunettes, j'ai rendez-vous avec un réalisateur, je vous offre une bouteille de champagne, je vous ramène les lunettes. Il a eu confiance, il m'a dit, ok, j'ai traversé la place, les cheveux plaqués en arrière, les lunettes. Et avec le manteau, la stature, j'ai essayé d'avoir celle de Jacques Chirac.
Vous avez la taille déjà.
Ouais, ouais. Et donc le réalisateur m'a dit, quand je t'ai vu traverser la place, pour moi, t'étais Jacques Chirac. J'avais réussi le casting.
C'est un vrai compliment.
Ah ouais, c'est un vrai compliment. On revient au plat du jour, tiens, David Radgeber.
J'arrive.
On va manger une côte de cochon en plat principal et en garniture, ce plat traditionnel de la cuisine française. Vous reconnaissez, Caroline Pigozzi?
Oui, bien sûr, un gratin dauphinois.
Et j'ai fait un beau jus de rôti comme ça.
Oh là là.
Oh là.
C'est vraiment le plat carnivore, vraiment dans toute sa merveille. Ça, c'est une
côte de cochon. C'est pas ça ce qu'on voit dans la salle à manger de Santa Marta au Vatican.
C'est ça, ils mangent pas ça au Vatican.
Non, pas vraiment.
Vous aimez une belle côte de cochon comme ça, ça vous tente ?
Oui, c'est meilleur que des hosties.
Rappelons David Radgeber aux auditeurs, tiens, les règles de cuisson pour cette côte de cochon. Vous l'avez fait revenir en cocotte. Hein.
Je l'ai fait revenir en cocotte, oui. L'assaisonner, on ne va pas se mentir, si tu l'assaisonnes trop longtemps avant, normalement pour la saumurer un peu parce qu'elle est tellement épaisse, si tu l'assaisonnes avant, ça ne sert à rien parce que le sel, il ne va pas s'introduire. Je l'ai fait colorer sur tout, avec le gras naturel. Je l'ai fait colorer sur toutes ses faces. Je l'ai mis 30 minutes au four à 180 degrés et je l'ai fait reposer autant de temps.
Comme une côte de bœuf, comme dans votre film, Arnaud Ducret, dans Tendre et Saignant, le temps de repos de la viande, il en est question aussi avec le chef.
C'est hyper important, mais reposer
dans la cocotte.
Ouais, je l'ai laissé dans la cocotte.
Quoi que ce soit.
Voilà. Après, je l'ai enlevé, je l'ai mis sur grille.
D'accord. Ouais.
Okay. En fait, c'est le sang qui fait les cuissons.
Bien sûr, ouais.
Et on laisse faire l'inertie de la chaleur.
Ouais.
Alors, on va rappeler aussi les règles de base pour réussir le gratin dauphinois à la maison. Quel type de pomme de terre vous avez choisi, David?
Moi, j'ai pris de la vieille pomme de terre. J'ai pris de la binge. Binge que j'épluche, que je fais pocher un petit peu, que je fais infuser avec un peu de crème, d'ail, un peu de thym, un peu de laurier. Et après, je tapisse un petit peu j'aille bien mon moule et je mets mon contenu dedans et je le mets au four pendant tranquillement 40 minutes.
Avec du lait et de la crème ou que de la
Moi,
crème
Moi, je mets que de la crème.
Que de la crème.
Ouais, que de la crème.
Assaisonné entre chaque couche.
Alors, j'infuse bien ma crème. J'infuse bien, j'ai pas besoin de réassaisonner derrière.
Vous faites cuire les pommes de terre dans la crème, c'est ça que vous nous dites.
J'infuse d'abord, je fais bouillir ma crème, je mets mon ail confit, mon thym, mon laurier, et après je coupe mes pommes de terre et je les fais infuser dedans. Par contre, j'ai une petite surprise pour vous.
Ah, bah dites donc, c'est déjà bien parti.
Ouais, j'ai encore une surprise.
Est-ce que le menu est à votre convenance, Caroline Pigozzi?
J'ai un peu plus de jus, si vous voulez.
Qu'au Vatican, vous voyez, on peut pas dire.
Il mange light.
Surtout ce qu'il y a. Ils parlent, vous voyez, au Vatican, ils parlent des saints, la sainteté, avec les mots qu'il faut. Mais quand on parle d'alimentation, quand on parle de repas, c'est pas onctueux, il n'y a pas de sensualité. Tandis que lui, dès qu'il parle de ce qu'il fait, c'est déjà sensuel, on a déjà envie de manger.
Effectivement, le vocabulaire et puis l'importance des mots. Vous voulez dire qu'il y a encore le péché de gourmandise qui traîne au Vatican ?
Oui, parce qu'ils sont, si vous les regardez, ils ne sont pas très minces. Il y a deux choses qui traînent. Bon, ils ont l'œil qui brille, ils aiment bien manger, les hommes d'église. Après tout, c'est un de leurs plaisirs, parce que la gourmandise, on dirait que c'est un péché véniel. Et il y a une autre chose, en revanche, qui est très dangereuse au Vatican et que les gens ne savent pas, c'est que les cardinaux, les gens importants, n'ont pas des chauffeurs généralement, mais des chauffeuses. Parce que vous savez que les femmes n'ont pas encore des rôles très importants au Vatican. Donc les chauffeuses sont tellement émues de transporter leur cardinal qu'elles donnent des grands coups de volant, c'est très dangereux. Si vous voyez une chauffeuse, une bonne sœur qui conduit au Vatican, vous mettez immédiatement de côté parce que...
Comme dans la grande vadrouille un peu.
Comme dans la grande vadrouille, oui.
Exactement ça. C'est rester ça parce qu'elles sont tellement émues que là, vous prenez un risque.
Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de créer justement la gourmandise avec l'émotion. C'est ça qui est intéressant.
Oui.
Vous mettez quoi, là ?
Là, je vous ai fait un petit plaisir.
Génial,
là,
je vous
râpe de la truffe, de la mélano. Là,
on est en plein dans la saison, il faut le dire, David Radgeber.
Ouais, mais là, c'est le top.
Mon beau-père m'a offert une truffe. Pardon, excusez-moi, je la bouge pas.
Mais vous pouvez, c'est la table du dimanche.
Mon beau-père, Daniel, que j'embrasse, m'a offert une truffe à Noël.
Et ben voilà, ça, ce sont de beaux
cadeaux. Formidables. Voilà,
exactement. Oui, c'est mieux qu'une écharpe dépareillée, par exemple.
Qu'on oublie dans le métro.
Pourquoi vous dites ça ? C'est ce que j'ai reçu.
Des éternelles écharpes qu'on oublie dans le métro ou dans le taxi.
C'est un repas chic et champêtre, mes amis.
Merci, c'est très bon.
Quel genre de mangeur vous êtes, Arnaud Ducret ? Alors, quand je vous vois avec cette belle cochonaille, on voit que voilà, vous faites honneur au plat.
Bah, je suis un bon mangeur, j'adore. Merci beaucoup. J'adore découvrir. J'adore. J'aime la table. Hein. J'aime la tablée.
Vous êtes curieux.
Ouais, je suis curieux totalement. J'aime la tablée. J'ai la chance d'avoir une femme qui elle aussi est très curieuse et aime beaucoup de choses. Donc tout d'un coup, j'ai ce plaisir de se dire que le samedi on a un resto, par exemple, où on a des copains à la maison. On a ce plaisir de se dire on va être à table et on va pouvoir manger et parler. Et j'adore. C'est ce que j'aime.
Et alors là, David Radgeber est en train de nous verser un jus sur chaque assiette.
Ouais.
Un jus que je vous ai vu faire vraiment en démarrant l'émission tout à l'heure.
J'ai fait un petit jus court, j'avais les parures. Le boucher m'a donné les parures. J'ai fait un petit jus court comme ça. Bon, j'avais quand même emmené un petit peu de fond de veau, juste pour lier au dernier moment.
Expliquez ce qu'est un jus court alors, tiens.
Et ben, quand j'ai démarré en fait mes côtes, j'ai bien coloré tout avec le gras naturel. J'ai pris mes parures et je les ai fait confire dedans. Et j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai fait 3 déglaçages. Parce que j'ai fait pincer les sucres et j'ai redéglacé avec un petit pinceau. J'ai tout retiré un petit peu, tous les sucres. Et donc, ça a fait une concentration en fait, des goûts et des parfums. Et voilà ce qui donne le goût original de la viande. En fait.
La concentration du jus court. Caroline Sigolzi, dans votre livre « Pourquoi eux ?», il y a un chapitre intitulé « J'ai dîné avec eux à l'Élysée ». C'est facile de recueillir des confidences dans ce cadre un petit peu cérémonial de l'Élysée ?
Non, pour les journalistes, c'est plus intéressant d'observer. Ce qui est amusant, c'est d'observer. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand il y avait le dîner de la reine d'Angleterre, une personnalité très importante qui était invitée à la dernière minute n'est pas venue. Comme il ne pouvait pas refaire le plan de table, on m'a mis finalement, j'étais très près. Enfin, c'est une table en nu et j'étais très près de la reine d'Angleterre. Et je dois dire que dîner, je l'observais en silence, mais dîner en face de la reine d'Angleterre qui dîne avec sa couronne sur la tête, c'est incroyable. Une chose extraordinaire. Oui, c'est vraiment amusant. En plus, en même temps, elle parle à ses voisins, elle est tellement charmante, elle est tellement aimable et souriante. Je me dis, c'est un truc extraordinaire. Mais évidemment, j'osais pas prendre de photos, bien sûr, parce que je trouve que c'est pas très poli de sortir son
portable.
Elle n'est
pas très selfie, la reine d'Angleterre, je crois.
Non, je crois pas. Non. Je crois pas,
on n'a pas le droit d'ailleurs de s'approcher d'elle.
Non,
je comprends, je voudrais pas faire à la table.
Non, on peut pas. Et absolument pas, mais c'est grisant. Voilà.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à table aux côtés d'Arnaud Ducret. Arnaud Ducret qui sera un boucher mercredi.
J'ai plus envie de répondre à vos questions. Je suis en train de manger. Laissez-moi tranquille, Laurent. Laurent Mariotte.
Je vous fous la paix.
Foutez-moi la paix. Je suis en train de manger un gratin avec des truffes. Et voilà.
Je dis juste tendre et saignant, une très belle comédie romantique et bouchère. Oui. Très bien réussie, réalisée par Christopher Thompson avec vous et Géraldine Pellas dans les rôles principaux.
Alison Miller aussi dedans. Oui. Jean-François Stenin, qu'on embrasse, qui nous a quittés, mais qui est formidable dedans, qui fait mon boss. Il amène une humanité dans le film qui se sent tout le long du film. Et ça. C'est ce qui fait la structure aussi du film qui est extraordinaire.
On l'aimait beaucoup cet acteur, oui. Jean-François Stévenin, qu'on a vu aussi dernièrement dans Illusion perdue. Voilà, c'est deux de ses derniers grands rôles au cinéma. Caroline Pigozzi publie Pourquoi eux chez Plon, des dizaines de rencontres et d'interviews des grands de ce monde. On parlait de François Mitterrand là, juste avant la pause. C'est vrai que voilà, vous le racontez dans ce livre. Vous allez le voir à l'Élysée. Il est au crépuscule de sa vie, au crépuscule de son dernier septennat. Et il se livre un petit peu à vous, hein. Il vous dit une phrase assez touchante.
Non mais ça a été bouleversant parce que j'aime beaucoup les animaux, les chiens, et il avait un bouvier bernois que lui avait donné le président de la Confédération helvétique. Les présidents de la République, généralement, ont des labradors, c'était plus à la mode, et moi je voulais voir ce chien, c'est très gros ces chiens-là. Et donc je vais voir le bouvier bernois, il s'approche de moi, il me connaissait comme journaliste, j'avais suivi beaucoup. Et je lui dis, Monsieur le Président, il me dit, vous ne me demandez rien aujourd'hui. Si, Monsieur le Président, j'aimerais voir votre bouvier bernois. Alors, il appelle un garde républicain qui arrive, il dit, allez chercher le bouvier bernois. Le garde républicain lui dit, Monsieur le Président, il est au fond du parc. Il dit, ça ne fait rien. Il ouvre la porte, il tape sur ses mains et le chien arrive au galop, le chien magnifique. Et bon, il montre le chien, évidemment, j'étais émerveillée. Il me regarde, il me dit, vous voyez, c'est encore le dernier qui m'obéit. Et cette scène, oui. Il est mort peu de temps après, et j'étais bouleversée, et je serrais mes lèvres, et je me disais, il est d'une lucidité incroyable, et évidemment, les gens, il y avait beaucoup de journalistes, parce que c'était le jour où il recevait l'association de la presse présidentielle, et personne ne se battait, évidemment, pour aller lui parler. Je trouvais que c'est un moment incroyable de lucidité, et aussi, après tout, il est resté 14 ans, et de montrer que vous pouvez rester 14 ans, vous pouvez avoir quand même une stature incroyable, et puis tout à coup, les gens se retournent. Enfin,
la lucidité du moment.
Et je trouvais ça très douloureux, voyez. Et c'est pas une question d'être ou socialiste ou pas socialiste. Moi, j'ai jamais milité. Je trouve que notre métier, c'est justement.
Non, c'est l'homme, quoi.
C'est tout à coup l'homme, et c'était. Terrible.
Alors, on retrouve les grands de ce monde. Il y a le pape, il y a les grands hommes politiques, il y a des acteurs aussi. Il y a Philippe Noiret. Est-ce qu'il y a des grandes figures qui vous inspirent, qui vous font envie ou qui vous font rêver aujourd'hui, Arnaud Ducret ?
Bon, j'ai une affection pour Jacques Chirac parce que, en plus, moi, je le vois aussi avec mon regard d'enfant. J'étais beaucoup plus jeune quand Jacques Chirac a été élu.
C'était votre président.
Voilà, exactement. Donc, il y a tout ça. Et puis, je pense que c'était un mec très drôle, quelqu'un qui devait être passionnant aussi. Donc, voilà. Et je l'ai joué. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être celui qui me parle le plus. Coluche, que ma mère adorait.
Et au travers du regard de ma maman, quand elle était, moi j'étais enfant, j'aime Coluche également. Puis bon, beaucoup de talent évidemment.
Votre maman qu'on retrouve grâce à vous sur scène dans That's Life en tournée, elle serait là avec nous à table. Qu'est-ce qu'elle dirait, votre maman?
Sers-moi un petit coup de rosé, Patrick. Quand ma mère est très contente, elle prend un petit coup de rosé, mais pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, t'as acheté du pain? Sers-moi un petit coup de rosé, Patrick. T'as eu ton bac? Sers-moi un petit coup de rosé, Patrick.
Non, ma mère est formidable.
Puisqu'on parle des grands de ce monde à cette table, eh bien on va parler des grands de l'ancien monde avec vous, Emmanuel Rubin. Ce week-end, on fête les 400 ans du baptême de Molière, Jean-Baptiste Poquelin.
Qui est ce Molière?
C'est un petit jeune qui débute dans le stand-up
et qui
est voué à faire une belle carrière, paraît-il. Et ce Molière, effectivement, vous le conviez à notre table, Emmanuel Rubin, mais vous le conviez à notre table pour qu'on le découvre de l'autre côté de la fourchette aussi.
Eh bien oui, parce qu'on ne sait pas si Molière était un gourmet ou un gourmand. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'à travers son théâtre, il y a des mots, il y a bien sûr des mets, mais beaucoup de banquets, de festins, de repas. Alors on dit souvent que, vous savez, Arnaud va peut-être me répondre, mais que la comédie, c'est une affaire de corps, c'est très physique.
Totalement.
C'est aussi, on dit, une manière d'aborder au populaire, au quotidien, parfois même au trivial. Et ça, je crois que Molière l'avait compris. C'est-à-dire que dans son théâtre, il va régulièrement inviter comme ça les instants de table, parce qu'il peut parler au public et il parle du corps.
Eh bien, rafraîchissez notre mémoire, tiens, justement. Dans quelle scène et dans quelle pièce on retrouve de Molière à table?
Alors, la première, c'est peut-être Amphitryon. La pièce Amphitryon, puisqu'on dit que c'est depuis cette pièce que le mot Amphitryon est entré dans notre vocabulaire. Je rappelle, ça veut dire un gourmand, un hôte éclairé. Autre pièce très importante, c'est du côté de Don Juan, puisque la fameuse statue invite le séducteur à un fameux banquet et en fait, il va rencontrer la mort et son destin. Une pièce aussi épatante, c'est Dorante. Dorante, on est dans le bourgeois gentilhomme et Dorante, c'est lui le vrai gentilhomme et il se moque du menu ridicule de Monsieur Jourdain en inventant un menu, lui, très précieux. Et puis, on pourrait citer Georges Dandin, on pourrait citer plein d'autres pièces, l'École des femmes, il y a un grand moment dans l'École des femmes et puis, bien sûr, dans l'Avare, puisqu'Harpagon corrige Maître Jacques, le cuisinier, qui veut un repas dispendieux. Et Harpagon lui dit non, on va tout réduire, il veut faire un repas d'avare. Quoi.
Emmanuel Rubin, chez Molière, les mots et les mets, on le sait, n'ont rien d'innocent. Il raconte même quelque chose de notre humaine condition.
Totalement. Alors, il faut se rappeler, hein, on est au XVIIe siècle, du côté de Louis XIV. Et en fait, son théâtre, il raconte, il y a presque une lecture marxiste de Molière. C'est-à-dire qu'il raconte la lutte des classes. Parce qu'à travers, et notamment tous ces instants où figurent des repas, on voit deux mondes. Un monde qui est en train d'émerger, celui du peuple et de la bourgeoisie, et le peuple qui a souvent faim, qui a souvent soif. Et on le voit à travers les pièces, ils vont chiper une goulée de vin. Il y a une fameuse scène dans Don Juan où le servant a avalé, a piqué comme ça dans le buffet un morceau de viande, et Don Juan lui dit « Oh, t'as un abcès ». Mais on voit que ce peuple a faim. Et dans le même temps, on découvre tout un monde qui est celui de l'aristocratie qui est en train de construire un siècle avant les Lumières, ce qu'on va appeler la gastronomie, le discours. Et donc, tu as deux sortes de repas. Une cuisine très précieuse, très sophistiquée dans le discours, celle des, bah, de la cour des aristocrates et puis celle du peuple qui est beaucoup plus roborative, beaucoup plus robuste. Et c'est cette confrontation-là qui en dit d'ailleurs toujours beaucoup sur notre époque que raconte Molière. Il avait bien compris que la table est un formidable vecteur justement pour faire passer les émotions.
Et ben voilà, on voulait en parler parce que ce week-end, on fête les 400 ans du baptême de Molière. Arnaud Ducret, vous le comédien, Molière, c'est une figure comme ça un petit peu mythique. Vous avez joué Molière, ne serait-ce qu'à l'école.
Et puis quand tu es jeune comédien, Molière est une... C'est là où il est très moderne dans l'écriture, une façon d'aborder le théâtre classique avec tout d'un coup, tu te rends compte, beaucoup de modernité. Ce qui fait qu'on est, comment vous dire, on n'est pas confronté tout de suite à un truc très classique, ancré, où tu te dis, oula, c'est loin de moi. Non, c'est très proche. Quand tu es jeune comédien et que tu veux faire ça, tout d'un coup, tu reconnais plein de choses. C'est tellement drôle et c'est tellement bien écrit, tellement moderne que tu abordes le classique avec tout d'un coup de la légèreté.
Eh ben, merci Emmanuel Rubin d'avoir rafraîchi notre mémoire. Et on vous lit dans le Figaro, je le rappelle bien entendu. Ça y est, notre repas touche à sa fin, bientôt midi et demi sur Europe 1. Je voudrais qu'on finisse par des coups de cœur. Hein.
Moi, je vais juste partir avant l'addition, si ça ne te dérange pas, Laurent.
Elle est pour moi.
C'est bon, c'est le.
C'est pour moi, ah, ça me fait plaisir.
C'est comme les gens dans les taxis qui se mettent jamais du côté de la circulation, comme ça, ils sortent les premiers.
C'est du vécu, ça.
Oui, ça sent le vécu. Vous avez fait le resto basket aussi, peut-être, Caroline?
Non, il y a des gens qui m'ont fait ça. C'est souvent en se disant un match, il y a une note de frais, donc on sort les premiers.
Joli.
Il n'y a plus de note de frais, d'ailleurs.
C'est bientôt la fin des notes
de
frais.
C'est la note de frais très, très light.
Alors, finissons avec les coups de cœur, tiens, de toute cette belle bande à la table du dimanche. C'est notre tradition ici, des coups de cœur pour nos auditeurs. Je commence par vous, Arnaud Ducret. Ça peut être un spectacle, un livre, un restaurant que vous avez envie de conseiller.
Ah bah, je vais conseiller le spectacle de Gaspard Proust. J'ai vu Gaspard sur Amazon Prime et j'ai adoré.
Alors voilà, voilà un mec qui va dans les extrêmes auxquels je ne ferai pas parce que c'est pas mon truc. Il le fait extrêmement bien. Il dit tout ce qu'on entend l'opinion publique, la fausse opinion publique d'ailleurs, où les gens viennent te dire « Oui, mais c'est scandaleux, il paraît qu'il a dit ça, mais tais-toi, laisse-moi tranquille. »
Tout le monde en prend pour son grade, tout le monde toutes en prend les pour religions, son grade, tout le monde.
Et je trouve ça formidable, c'est très bien écrit, il est extrêmement drôle avec, je crois, une vanne très, très... J'aime pas dire le mot vanne parce que c'est plus que ça, mais un mot une, très drôle toutes les 5 secondes.
C'est ça.
Ça ne s'arrête pas. C'est très, très drôle.
Un coup de cœur, Caroline Pigozzi.
Moi, je suis complètement démodée. J'ai vu à la télévision, j'ai revu Les Vieux Sissi. Je trouve ça magnifique. Parce que
Romy Schneider,
la femme adore.
Est formidable. J'ai regardé ça comme Bernadette Soubirous devant la grotte. J'étais émerveillée. Puis j'ai eu un autre coup de cœur qui n'a rien à voir, qui est Canin. J'étais à Deauville le week-end de Noël et j'ai vu un bébé teckel qui était beige clair. Il était comme les Golden Retrievers. J'avais jamais vu ça. Je trouvais qu'il était lunaire et j'ai trouvé ça formidable. Je suis pas très intellectuel, je suis pas allé voir beaucoup de
spectacles. C'est notre premier coup de cœur canin à la table du dimanche. Votre coup de cœur, David Radgeber, le chef du restaurant L'Assiette à Paris qui nous régale aujourd'hui.
Ben, mon coup de cœur, moi, c'est Arnaud Duhem, les petits princes à Suresnes, parce que la banlieue est en force, là, ça avance bien. Et,
chef
pas
cuisinier
évident, pas évident, ouais, parce qu'il a repris La Régalade, qui s'appelle Les Petits Parisiens. En ce moment, c'est pas évident pour lui, parce que bon, il y a problème de staff, tout ça.
Mais... Pour plein de chefs cuisiniers, justement, qui s'installent, on les salue, on les encourage.
On galère un peu, mais on reste positif, toujours. Donc, Arnaud Duhem, Les Petits Princes à Suresnes.
Ça, c'est dit. Et vous, Emmanuel Rubin, votre coup de cœur pour terminer.
Rapidement, c'est sorti aussi en novembre, l'album de Diana Ross. Peu de gens en ont parlé,
mais
extraordinaire. Vous allez voir comment à 78 ans, cette femme est extraordinaire. Le titre de l'album, comme de la musique éponyme, I Still Believe. Écoutez ça, c'est du Feel Good Song. C'est épatant. Bon,
c'est important pour vous, la musique, hein, Ducré.
La musique, ça a une place dans ma vie hyper importante. Quel bonheur d'entendre un accord et d'avoir les poils qui se dressent. Je me souviens de Quincy Jones, dont je suis très fan, et Jean-Paul Goury, qui était mon mentor, musicien, m'a dit un jour, écoute Secret Garden de Quincy Jones, Back on the Block, l'album pour ceux qui connaissent. J'écoute le début, l'intro, et j'ai moi, enfant, jeune, je vais avoir 15 ans, dans mon lit, j'ai des larmes en entendant juste l'accord de clavier et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau.
Eh bien, merci, chers amis, d'être venus à la table du dimanche. Merci, Arnaud Ducré.
Je finis mon cochon.
Finissez votre cochon et on vous retrouve justement avec de la belle viande rouge dans Tendre et Saignant, mercredi prochain au cinéma. Merci, Arnaud Ducré. Merci, Caroline Pigozzi, d'être venue à la table du dimanche. Pourquoi eux, votre livre chez Plon. Merci, David Radgeber.
Avec plaisir.
Pour ce beau déjeuner cochon. Encore une réussite et on vous retrouve dans votre restaurant, L'Assiette, dans le 14e arrondissement et puis à l'arrière-cuisine.
Voilà.
Où il y a de la street food à l'arrière-cuisine.
Street
aussi.
Food.
Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef, Claire Dutron à la programmation et à la rédaction, Julien Amat à la rédaction également, Julien Or à la technique, Loïc Vimard à la réalisation. Bon dimanche sur Europe 1.